Bonjour, messieurs, dames.
Je m'installe. Ceci est là, sur les oreilles. Hop, voici. J'ai la zapette, j'ai tout ce qu'il faut. Bonjour, donc mon nom est Patrick Ray. Mon épouse est ici. Inès qui a fréquenté cette église pendant des années, jadis. Donc moi, j'ai été pasteur pendant 10 ans à l'église des Bovresses, église qui est dans les Hauts de Lausanne. Voici, je viens ce matin et je vais commencer par une question. À quoi Jésus a-t-il passé le plus clair de son temps? S'il vous plaît. À enseigner ses disciples. Merci, bonne réponse. Alors, je contemplais votre magnifique fresque. Elle est belle. Néanmoins, si vous me permettez tout d'un coup, ce qui me frappait un petit peu, c'est qu'en fait, alors ça, c'est un moment fort, c'est un moment extraordinaire dans la vie de Jésus avec ses disciples. Hein, voilà, quand vraiment il va donner sa vie, et puis là, il le symbolise par le fait de prendre cette scène. Il institue la scène. Un moment gigantesque. Néanmoins, à mon sens, ça n'est pas représentatif du quotidien de Jésus avec ses disciples. Parce qu'on pourrait retomber un peu dans un de nos schémas parfois d'église avec quelqu'un qui parle et qui fait le service et tous les autres qui sont assez passifs, on voit, à écouter et à ne rien faire. Alors que, à mon sens, j'oserais suggérer que les disciples étaient bien actifs avec Jésus. Hein, vous le savez, il les envoie deux par deux, il les envoie guérir les malades, il les envoie chasser les démons. Donc ils n'ont pas été que passifs à écouter le Christ, mais ils ont été, je le crois, très actifs. Et ça sera d'ailleurs un peu le thème de ma prédication aujourd'hui. Donc le discipulat, ben déjà, qu'est-ce que c'est que ce discipulat? Et puis est-ce que c'est important? Donc, nous avons, magnifique, qu'en dit la Bible? Alors, j'espère que vous le savez tous, Matthieu 28, 18, c'est ce qu'on appelle la grande commission. Non, c'est pas que Jésus allait faire des commissions, c'est pas ça. Voilà, commission, hein, je pense que le co, justement, avec, hein, la mission avec. Matthieu 28, verset 18, c'est important parce que c'est un peu le testament de Jésus. Hein. Avant de partir, voilà ce qu'il dit à ses disciples. Donc les derniers mots de quelqu'un avant qu'il parte, en général, on les écoute attentivement. Et Jésus, que dit-il? Il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, ou faites des disciples parmi toutes les nations. » Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme ça a été rappelé juste tout à l'heure, je suis avec vous, mais pourquoi? Pas juste pour être avec moi quand je regarde la télévision ou quand je mange mes biscuits, mais à mon sens, je suis avec vous essentiellement pour ça. C'est vraiment cette mission que le Christ nous a laissée. Et c'est pas une suggestion. Si vous avez envie, allez, faites des disciples. C'est pas seulement à l'élite qu'il s'adresse, c'est à nous tous. Donc un disciple de Christ, il met en œuvre ceci. Donc un disciple de Christ fait des disciples. Ça n'est pas que le pasteur qui fait des disciples ou le responsable de la formation de l'Église, ça s'adresse. Parce que nous tous chrétiens, disciples, c'est synonyme. Un ami une fois me demandait, mais est-ce que tous les chrétiens sont appelés à être disciples? Mais attention, on n'est pas disciples, alors qu'est-ce qu'on est? Hein, il n'y a pas de membre passif dans l'Église du Seigneur. Donc voilà, quand même ce commandement, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors on verra par la suite un peu, mais alors c'est quoi faire des disciples? Hein, il ne faut pas que j'oublie de lancer mon chronomètre, parce que sinon... On en a pour toute la journée, voici. Donc, semble-t-il quand même quelque chose d'important que Jésus nous a laissé. J'aime bien ce verset aussi, Matthieu 4, 18. Il y a une montre ici. Ouais, mais si je parle, je vais oublier de la regarder. Ma montre, elle va vibrer, c'est mieux. Matthieu 4, 18, il leur dit « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Tiens, voilà, verset qu'on a souvent entendu. Mais en fait, si on se penche un petit peu sur ce verset, Jésus n'a pas dit « Suivez-moi et je ferai de vous des, bons chrétiens » ou « Je ferai de vous des personnes justes » ou « Je ferai de vous des personnes qui ne disent plus des gros mots, qui s'habillent bien, qui lisent la Bible tous les matins, qui prient », ce qui est une fort bonne chose, et je vous y encourage. Mais il va un peu plus loin, il me semble. « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Pêcheurs d'hommes. Donc c'est pas juste suivez-moi et faites et soyez des bons suiveurs. Mais il y a visiblement je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et de nouveau, à mon sens, cet appel il est adressé à tout chrétien et tout disciple. Nous sommes appelés, mesdames, messieurs, à être des pêcheurs d'hommes. Alors de nouveau, on va essayer de voir un petit peu plus clairement de quoi il en retourne. Donc Jésus, la majeure partie de son temps, alors c'est pas si facile de voir en lisant la Bible combien d'heures il a passé à prêcher aux foules, combien d'heures à guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Voilà, a priori, pour Jésus, pour guérir quelqu'un ou ressusciter un mort, ça lui prenait pas 5 heures de prière. Donc voilà, il semble quand même qu'on puisse raisonnablement dire qu'en effet, la majeure partie du temps de Jésus, c'était avec ses disciples, c'est là qu'il a investi le plus. C'est là qu'il a investi le plus. Et heureusement, parce que s'il n'avait fait que de guérir des malades, ressusciter des morts, ce qui est déjà extraordinaire, on ne serait pas là aujourd'hui, on est d'accord. C'est parce qu'il a investi dans des hommes, 2 Timothée 2:2, Paul dit à Timothée, « Ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des hommes capables à leur tour de le transmettre à d'autres. » Donc c'est cette transmission. Voilà, si ma femme et moi n'avions pas d'enfants, notre lignée s'arrêterait. Voilà, Jésus, lui, a eu des enfants spirituels, si on peut dire, qui eux-mêmes ont retransmis plus loin. Voilà, à quoi Jésus a-t-il passé le plus de temps investi. Maintenant, j'aimerais peut-être m'attaquer, si vous permettez, à ce qu'on appelle un changement de paradigme. Il y en a plusieurs quand on parle de discipulat, c'est-à-dire un changement dans notre façon de voir les choses. Est-ce que l'information égale transformation ? Je m'explique. Je crains que dans nos églises, on ait beaucoup misé, et de nouveau, c'est un pasteur qui vous parle, donc j'ai servi de tout mon cœur et de toute ma sueur l'église, mais néanmoins, je m'interroge. Nous avons le système scolaire, et je crains que dans nos églises, on se soit pas mal calqué sur ce système, c'est-à-dire la transmission d'informations, ce que je suis en train de faire ce matin, excusez-moi, j'espère que ça ne restera pas là. Le système scolaire, c'est tu es assis et tu m'écoutes. Voilà ce que vous faites, je vous remercie de votre bonne écoute généreuse ce matin. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu la pensée grecque. C'est aussi nos universités, voilà, on transmet de l'information, de l'information, de l'information. Mes chers amis, la Bible, est-ce que c'est uniquement ça ? Est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un disciple, c'est uniquement quelqu'un qui sait les choses ? Eh bien sûr que non, parce que si je sais les choses, mais que je ne les mets pas en pratique, c'est même pire, oserais-je dire, c'est même pire que de ne pas les savoir. Ça, on pourrait en discuter, mais j'entends, en tout cas, c'est clair, celui qui ne met pas mes paroles en pratique, a dit Jésus, il est comme quelqu'un qui construit sur le sable, vient la tempête et tout part à l'eau. Par contre, celui qui écoute ce que je dis et qui met en pratique, celui-là, il construit sur le roc. Et mon micro part en cacahuète. Merci. Donc le problème, c'est que si je base uniquement la formation de disciples sur la transmission d'informations, la prédication du dimanche matin, l'étude biblique du jeudi, etc., hélas, je risque de me retrouver avec des chrétiens qui savent beaucoup de choses, mais qui sont peu aguerris quant à la mise en pratique. Je ne remets surtout pas en question votre bonne volonté, mesdames, messieurs. Mais en tant que responsable d'église, moi par exemple, j'ai dû me poser ces questions et me dire, mais est-ce que je fais vraiment un bon travail en investissant essentiellement là-dedans ? Prenons l'exemple de l'apprentissage que beaucoup de nations nous envient. En Suisse, nous avons un excellent système d'apprentissage. Et alors là, on a un maître d'apprentissage. Alors oui, il y a de la formation, on apprend des choses, on apprend la théorie. Mais ensuite, il y a une mise en pratique accompagnée, normalement en tout cas. C'est-à-dire que je regarde le maître faire, il me dit « Voici Patrick, comment on perce un trou ?» Voilà, que tu perces dans du métal, tu dois mettre un peu d'huile ou que ne sais-je. Pour que la mèche ne chauffe pas trop, fais attention, si tu vas trop vite, la mèche, elle chauffe et elle casse. Je vois comment il fait et ensuite il me dit « Maintenant, toi tu fais, Patrick ?» Et il me regarde faire et il me corrige. Là, tu vas trop vite, tu vas pas assez vite, etc. Et j'apprends. Et ça, à mon sens, on se rapproche de la pensée hébraïque. La pensée hébraïque, c'est on ne construit pas quelqu'un uniquement en déversant des informations sur cette personne, mais c'est, oui, certes, des informations. Ça, alors, le peuple juif, ce sont des champions de la connaissance, mais de la mise en pratique. Et c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples, de nouveau. Il n'a pas fait que de leur prêcher. Il a été avec eux, ils l'ont vu faire, et tout ça s'était intégré dans la vie quotidienne. Me suivez-vous ? Donc, je crains que dans nos églises, peut-être pas chez vous, mais que dans nos églises, nous n'ayons cédé au fantasme qu'on allait faire des disciples uniquement en asseyant des gens et en leur parlant. Et ça, moi, je peux vous le dire en tant que pasteur, le résultat, c'est peu productif. Alors, j'aime pas tellement ce mot quand on parle de disciples, on n'est pas dans une usine, mais est-ce que je l'ai mis ici? Voilà, un proverbe, soi-disant chinois. Enfin, voilà, il y a tellement de proverbes soi-disant chinois, mais peu importe. Ce que j'entends, je l'oublie. Voilà, que t'en entends, mais moi ça je sais aussi, hein, des fois à la sortie du culte, quand quelqu'un s'occupait, ou ma femme des fois, elle s'occupait de l'enfant, et puis elle venait, ah, c'était quoi le prêche d'aujourd'hui? Ça parlait de Jésus je crois. Enfin voilà, on oublie, mais c'est normal, c'est là le dimanche matin, vous êtes assis, je parle, vous allez oublier plein de choses. Ce que je dis, je m'en souviens, ce que je fais, je le sais. Ce que je fais, je le sais. Donc, chers amis, dans nos églises, nous qui sommes appelés à former des disciples, on ne devrait pas en rester que à du discours, mais on doit mettre en pratique, en œuvre, on doit mettre en œuvre une pratique accompagnée. Une pratique accompagnée. Et ça, à l'évidence, le prêche du dimanche matin n'y suffit pas. Alors concrètement, voilà, étape et ingrédient du discipulat, oula c'est petit, j'espère que vous avez des bons yeux, mais je vais vous le lire. À mon sens, le discipulat s'inscrit premièrement dans une relation, c'est ce que Jésus a vécu avec ses disciples, une relation, et c'est pour ça que le discipulat ne peut pas se pratiquer par groupe de 30, de 50, de 100. J'entends, Jésus lui-même ne l'a fait qu'avec 12 personnes, et nous, on s'est imaginé qu'on allait mettre 500 personnes dans une salle de culte et qu'on allait faire 500 disciples. C'est peut-être les rêves de l'ère industrielle, mais ça ne marche pas, en fait. Donc, petit groupe, ça veut dire que moi, vous, qui sommes appelés à faire des disciples, nous sommes appelés à faire ça dans un cadre restreint, un cadre dans lequel on peut développer une relation, une vraie relation. Et comme vous le savez, la Bible, en termes de relation, elle met la barre assez haute, hein, et donc de l'amour. Monsieur Francis Chan disait, si le disciple que tu accompagnes, tu ne l'aimes pas, stop, arrête tout de suite. Et c'est assez cohérent, en fait, parce que qu'est-ce qui résume la loi et les prophètes? Qu'est-ce qui résume toute la Bible? L'amour, merci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Donc si je suis en train d'enseigner ça, mais sans manifester l'amour, il y a quelque chose qui ne joue pas, hein. C'est comme si j'enseigne à mes enfants que l'honnêteté est ce qu'il y a de plus essentiel, puis quand on prend le bus, je paye pas le ticket. J'atteins là, ils vont devenir schizophrènes, ou alors ils vont voyer tout balader. Donc même chose, moi ce matin, je peux vous dire, je vous aime tous. Ah, bon, c'est gentil, mais c'est pas vrai. Vous me comprenez, je vous connais pas, vous me connaissez pas, on se voit comme ça. Donc je ne pourrais vous dire ça, et ça n'aurait du sens, que si on se voit régulièrement, une fois par semaine, dans un petit groupe, voilà, et puis qu'on apprend à se connaître. Et c'est dans ce cadre-là, à mon sens, c'est le cadre idéal pour enseigner la Bible, justement. C'est-à-dire, il y a premièrement cette relation, cette proximité. Dans le cadre de cette relation, j'aide les personnes à connaître Christ. Je les aide à lire la Bible. Je les aide à prier. Hein, on est dans ce cadre restreint, comme Jésus l'a fait. Ça veut dire que si tout d'un coup quelqu'un ne comprend pas quelque chose, comme ce matin, si je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, je doute que vous leviez la main pour m'interrompre. Déjà, ça se fait pas, voilà, hélas. Mais ça veut dire qu'alors il y a des gens qui vont repartir ce matin avec des questions, ils n'auront pas compris ce que j'ai dit, et puis voilà, puis ils n'auront pas compris. Et puis surtout, c'est cette mise en pratique. Si on parle de la prière, il faut qu'on prie ensemble. Si on parle de lire la Bible, il faut qu'on la lise ensemble, vous comprenez? On commence par où? Par la Genèse, par Matthieu, vous me suivez? Voilà. Comment on fait? Une concordance? Ça se trouve où? Comment ça s'utilise? Donc, un cadre restreint. Et puis, je suis ouvert à ces questions personnelles, ce que je viens de dire. Et puis, c'est là, à mon sens, qu'on touche presque le cœur de la chose. C'est qu'alors qu'on se connaît plus, eh bien, je vous invite dans ma vie. C'est-à-dire que vous puissiez voir concrètement, que vous puissiez venir à ma table, et puis qu'un jour, peut-être, alors ça ne nous arrive pas souvent, Dieu merci, mais peut-être qu'un jour j'ai une tension avec ma femme. Puis là, vous allez voir, mais tiens, comment ça se passe quand ils ont un désaccord? Le pardon, en fait, ça se vit comment? Et puis le Patrick, il attend quoi? 3 jours pour demander pardon à sa femme? Ou 5 minutes? Ça se passe comment? Ce pardon chrétien, alors j'ai lu, voilà, je lis Matthieu 18, il faut pardonner 77 fois 7 fois, j'ai la théorie, mais concrètement. Et puis si quelqu'un m'agresse dans la rue, ou je sais pas quoi, je réagis comment? Vous voyez ce que je veux dire? Je dis rien, enfin voilà. On a besoin de voir la Bible incarnée, les amis, incarnée. Et Jésus, comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle la parole incarnée, la parole faite chair. On a besoin de voir ce que la Bible, ça donne quoi la Bible dans la vie d'un homme de 54 ans? Ça donne quoi la Bible dans la vie d'une femme? Dans la vie d'une célibataire, d'une mariée, ça donne quoi? J'entends les nouveaux convertis, les jeunes chrétiens, ils ont besoin de voir ça. Si je fais que de donner de la théorie, de la théologie, et j'aime la théologie. Voilà, j'ai passé 3 ans de ma vie à l'étudier, c'est magnifique. Mais on a besoin d'un message incarné. Mais si vous me voyez comme moi le dimanche matin, j'attends moi en tant que pasteur de l'église, la plupart des gens, ils me voyaient sur scène, voilà, bien habillé. Ils me voyaient le matin à 10h, à midi je pars. C'est pas, vous comprenez, comme incarnation du message, c'est un peu court. Donc le risque, c'est que si on base notre formation de disciples uniquement sur la prédication dominicale et des études bibliques, on va avoir des chrétiens des nouveaux convertis, des jeunes chrétiens qui ont une vision de la vie chrétienne un peu tronquée, qui auront des racines peu profondes. Parce que l'enjeu, c'est quoi? C'est de voir des hommes et des femmes s'enraciner profondément en Christ, qui vont tenir ferme. J'entends, et puis c'est comme moi, ma vie, elle n'est pas toute lisse, chers amis. Vous vous en doutez bien. Voilà, je suis là avec mon joli costard ce matin. Mais ma vie, elle est aussi faite de difficultés, de souffrances, de prières non répondues, même de contradictions. Voilà, je ne suis pas un homme parfait. Mais c'est là que ça devient intéressant, justement. Comment est-ce qu'on réagit quand Dieu répond pas à nos prières? Comment est-ce qu'on réagit quand il y a des catastrophes qui nous tombent sur la tête? Ah, là, ça devient intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi? J'envoie tout balader? Alors, si c'est ça la foi, j'abandonne, ou je me fâche contre Dieu, ou autre chose. Voilà. On a besoin de voir ça. Les jeunes convertis ont besoin de voir ça. Et ça, ils pourront le voir que si vous ouvrez votre vie. Si vous ouvrez votre vie. Parce que ça, ils ne le verront pas le dimanche matin au culte, ils ne le verront pas dans l'étude biblique du jeudi matin. Et pour ça, il y a besoin qu'on ouvre nos vies. Si je reviens d'ailleurs, si je dis ces étapes du disciple là, si je reviens dans le fameux Matthieu 28, 18, 4 minutes, il me reste. C'est intéressant parce qu'on a presque comme un petit mode d'emploi déjà quand Jésus dit allez. Alors ça commence déjà par aller. Donc il faut pas que je reste dans l'église à attendre que les gens viennent. Je dois aller. Hein, et ça, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a cet événement qui s'appelle le turning qui se déroule en Suisse romande. Alors c'est un événement parmi d'autres. Hein, le discipulat, c'est bien plus large que ça. Mais l'idée, c'est d'aller dans la rue. Alors on peut aller dans la rue, mais on peut aller vers notre voisin, on peut aller vers notre voisine qui fait sa lessive, on peut aller vers l'oncle Albert qu'on n'a pas revu depuis 3 ans. Allez, il faut que je me bouge, il faut que je me bouge. Si j'attends que les gens viennent ici, je risque d'attendre longtemps. Faire des disciples, ok, et comment ça se passe? Alors, il y a ce baptême qui veut dire... C'est sûr qu'un début d'un disciple, c'est quelqu'un qui s'est décidé pour Christ, d'accord? Donc pour ça, il faut que je lui annonce Christ, il faut qu'il connaisse Jésus. Ils ne vont pas se décider pour Jésus s'ils ne le connaissent pas. Donc il faut que je puisse partager Christ. Et il faut que je leur enseigne à observer, ou enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai prescrit. C'est ça, cette mise en pratique. C'est pas juste enseignez-leur à obéir. Ah, intéressant. Il faut pas juste que j'apprenne. Oui, le pardon, je sais ce que c'est, Matthieu 18, 7 fois. Ah, non. L'idée, c'est d'apprendre à obéir. Voilà. Maintenant, ton ami vient de te faire un sale coup. Il t'a fait quelque chose qui t'a blessé. T'es fâché. Là, ça devient intéressant. Tu fais quoi, là? Tu lui fais la tête pendant 6 mois? Tu lui rends son coup? Ou alors, tu rentres dans une démarche de pardon. Et concrètement, comment on fait ça? Ma colère, j'en fais quoi, là? C'est pas marqué dans le texte, là, mais je la colère. Ok, viens avec moi, on prie. On va déposer auprès de Dieu. Ouh, Seigneur, je te donne. Oh, ça me fait tellement mal, je suis fâché. Enfin, voilà, vous me comprenez? Enseignez-leur à obéir. On a une autre marche à suivre intéressante, c'est dans Luc 10. Versets 8 et 9, je crois, où Jésus envoie ses disciples deux par deux, puis il leur dit d'abord, entrez chez les gens, mangez avec eux. Ça parle de construire une relation. Guérissez les malades. Ça parle de s'intéresser à la personne, de prier pour elle, qu'elle puisse peut-être même expérimenter Dieu, et ensuite annoncer le royaume. Donc voilà, ce disciple-là, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un cadre relationnel, puis c'est tellement logique. Notre Dieu n'est-il pas un Dieu relationnel, les amis? Évidemment. Jésus ne nous a pas envoyé l'évangile depuis le haut du ciel avec des flyers, non? Ou il n'a pas fait asseoir ses disciples avec 10 000 personnes, puis il a fait que ça pendant 3 ans. Il aurait pu, le plus grand prédicateur du monde. Il a pris un petit groupe, il a investi dans ce petit groupe. Il a été proche d'eux, tellement qu'il a vécu avec eux, ils l'ont vu vivre, ils ont vu l'évangile incarné, ils ont vu Jésus se lever tôt le matin pour aller prier, ils ont vu comment Jésus réagissait quand il était agressé, quand des gens voulaient le lapider, le pousser en bas des falaises, ils ont vu tout ça, ça avait du sens, c'était pas juste une théorie. Voilà. J'incarne le message. C'est donc quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'adapté. Voilà, moi ce matin, je ne peux pas adapter le message à vous. Il y a parmi vous des intellectuels, des universitaires, il y a parmi vous des gens manuels, il y a des rapides, il y a des gens, je suis déjà en train de les fatiguer, je ne vais pas assez vite pour eux. Puis il y en a d'autres, ils sont là, oh, bon, 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 il dit beaucoup de choses ce Patrick. Voilà, tandis que si on est dans un petit groupe, ben, on peut s'adapter à la personne qui est là. À son rythme, voilà, ma montre sonne. J'avance au rythme de la personne, le message est incarné. De nouveau, c'est pas juste un petit groupe de 8h à 9h30 le mercredi soir. La personne, je l'invite dans ce que je fais déjà. Viens manger chez moi. Voilà. Ou je vais faire une marche à la montagne, viens avec moi. Ou je vais faire mes courses, viens avec moi. Voilà. Et enfin, dans l'amour, s'il vous plaît. Sinon, cela ne sert de rien. Voilà, rapidement pour terminer. Et puis alors là, c'est pour votre réflexion, là, il y aura aussi beaucoup à dire. C'est qu'en fait, Jésus n'a pas fait que de faire des disciples, puis ça s'arrête là. Mais il a formé ses disciples pour qu'eux-mêmes en forment d'autres. Wow, c'est là que ça devient encore plus fort. Ça veut dire que le but, c'est pas juste de donner un poisson, mais apprendre à pêcher. Ça veut dire que les disciples que j'accompagne, je les forme afin que eux puissent en former d'autres. Et là, ça change beaucoup. Je vous donne un petit exemple. Quelqu'un qui pratique ce disciple-là, il disait par exemple que quand un jeune converti me pose une question sur la Bible, je lui donne pas la réponse. Je lui dis, viens, on va ensemble chercher dans la Bible. Parce que je veux qu'il apprenne à chercher. Vous comprenez? Je veux que le jour où je suis pas là, il sait se débrouiller. Parce que sinon, oh, Patrick est pas là, je sais pas quoi faire. D'accord? Alors ça, moi je vous dis, moi en tant que pasteur qui aime bien exposer ma science biblique, il y a du travail. Parce que quand quelqu'un me pose une question que je donne pas la réponse, je dois me... Voilà, parce que j'aurais tellement de choses à dire, mais non. Viens, nous allons chercher. Vous me suivez, hein, ça change quand même passablement dans la façon de faire. Voilà. Ouais, on rêve un petit peu, hein. Moi, j'étais informaticien avant d'être pasteur. Prenons un évangéliste qui chaque jour amène une personne à la conversion. Waouh! Il y va, hein. Donc, en une année, il en fait 365. En deux ans, il en fait 720. En trois ans, il en fait 1095. Voilà, 365 chaque année. Vous faites 2 disciples par année. C'est-à-dire que pendant une année, vous priez, Seigneur vous montre, Albert et Joseph, vous allez vers Albert et Joseph, cher Albert, cher Joseph, le Seigneur t'a mis sur mon cœur, je te propose qu'on passe du temps chaque semaine, maintenant, et puis ensemble, on va poser les bases de la foi chrétienne dans ta vie. On va commencer par le début, voilà, qui est Jésus, ou bien on lit la Bible ensemble, simplement, vous partagez un peu votre vie avec eux. Ben, au bout d'une année, vous en avez 2. Mais après ces 2, ils font de même. Et vous continuez aussi à en faire 2. Donc vous en avez 6. Eh bien, chers amis, en 15 ans, vous avez 9 500 000 disciples. Alors c'est énorme, c'est théorique, certes. Mais monsieur l'évangéliste, il a fait 5 000 convertis. Convertis uniquement. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des gens qui un jour ont levé leurs mains, ont dit « Oui, Jésus vient dans mon cœur. » Puis après, ils sont un peu largués dans la grande famille chrétienne. Tandis qu'ici, ça, c'est des hommes et des femmes qui ont passé une année, imaginez, quelqu'un qui a passé une année avec vous. Mais quel cadeau et quelle richesse. Mais cette personne-là, le vent peut venir, l'orage, la pluie, tout ça, il tient bon. Et en plus, il a une relation particulière avec vous, elle reste. Donc quand ça devient vraiment trop dur, il sait très bien vers qui se tourner. Vous avez été son mentor, vous avez été son père spirituel, sa mère spirituelle. Voilà, on les attache à Christ, on est bien d'accord. Voilà. Mais en attendant, il y a cette relation qui est là. C'est ce qui se passe dans le monde naturel, avec nos enfants. C'est ce même principe. Donc en fait, c'est très intelligent de faire ça. Hein, je regarde avec ma femme depuis 40 ans qu'elle est chrétienne. Je sais plus, on arrivait à 80 milliards de... Non, on arrête. Ça, J'aurai beaucoup d'enfants. Bon, ma femme a un cœur large, c'est bien. Voilà. Et donc, la grande différence, c'est qu'on n'a pas juste des convertis, mais on a des disciples, des gens qui ont pu partager une année avec un chrétien, une chrétienne mature. C'est un tel cadeau. La plupart d'entre nous, je pense qu'on n'a pas vécu ça. Hein. En général, nous, on n'est pas issus de ce genre de génération-là. On a un peu grandi tout seul, en se débrouillant. Et c'est pour ça que c'est pas évident de passer dans cet autre mode. Mais Dieu est là. Dieu nous aime. On a un père. On peut savoir ce que c'est d'être un fils. Même si vous n'avez pas eu de papa, vous n'avez pas connu votre papa terrestre, même si vous n'avez pas eu de père ou de mère spirituelle, on a un père. En lui, on a tout ce dont on a besoin et c'est donc possible. Voilà. Je termine ici. J'aimerais prier si vous voulez bien. Seigneur Jésus, c'est toi qui es notre exemple. On dit qu'on veut te suivre. Alors enseigne-nous, Seigneur, dans cet art tellement subtil. C'est un peu comme d'être des parents. C'est une tâche en même temps énorme et puis en même temps, ben voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Guide-nous, Seigneur, montre-nous dans la vie de qui nous pourrions investir. Mets sur notre route des hommes, des femmes qui te cherchent et que nous pourrions accompagner, Seigneur. C'est à la portée de chacun. Alors, aide-nous à être des hommes et des femmes qui portons du fruit, et un fruit qui dure, et notamment dans la vie de disciples que nous pouvons attacher à toi fermement, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Voilà, donc il y a ce turning qui existe. J'ai là des feuilles, vous pouvez venir les consulter. Donc ça, c'est une bonne occasion de mettre en pratique. Je vais les poser ici par terre. Donc ce turning qui est simplement l'occasion d'aller dans la rue, rencontrer des gens, simplement leur annoncer l'évangile. Et de les accompagner ensuite. Donc voilà, ce turning, c'est ça une des nouveautés, si je peux dire, c'est qu'on ne va pas juste faire de l'évangélisation dans la rue, mais ensuite, il y a un matériel qui existe, vous avez un petit livret, il y a des gens qui sont là pour vous accompagner. Donc si vous vous sentez le cœur de marcher sur l'eau à la suite du Seigneur, c'est l'occasion, ce turning. Merci, monsieur l'homme.